J'aimerais qu'on se tourne ensemble dans 2 Corinthiens 4. Il y a un proverbe chinois, donc ce n'est pas un proverbe biblique, mais qui décrit des fois notre attitude. Ce proverbe, c'est le suivant. Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde son doigt. Une autre façon d'illustrer la même vérité, c'est celle du chien qui est un peu pas très malin. Et lorsque son maître lui montre sa gamelle, la source de sa nourriture, le chien essaye de sauter pour attraper le doigt du maître. J'ai, avec ma famille, eu donc le privilège de passer du temps dans la région de Seattle, pas loin de Victoria au Canada, dans les îles San Juan. C'est une très très belle région, sauvage encore. On peut aller voir des orques qui naviguent, on peut attraper des saumons, voir des phoques, etc. C'est vraiment un endroit splendide. Et ça faisait 3 ans que j'étais pas repassé là-bas, et ça fait probablement 25 ans où j'ai pas passé autant de temps sur cette île. On a passé 2 semaines. Et j'étais absolument émerveillé par la beauté de l'endroit. Et je me disais, en fait, cette beauté que nous voyons, c'est le doigt de Dieu. C'est l'index de Dieu qui nous dit, il y a des choses encore plus formidables qui vous attendent si vous êtes mes enfants. C'est étonnant de voir qu'en fait, on a tendance à se fixer sur les indicateurs au lieu de nous fixer sur ce que ces indicateurs nous montrent ou nous invitent à considérer. C'est aussi un moment un peu difficile émotionnellement, dans le sens où je me souviens de cet endroit. J'y suis allé pour la première fois il y a 41 ans. Donc j'ai encore des photos là-bas, dans des albums, où j'étais un jeune homme avec plein de cheveux, fort. Je pouvais soulever des grosses bûches de bois pour construire des choses. Et on voit combien le temps passe. On a aussi plein de mémoires avec le papa et la maman de Nancy qui ont disparu depuis. Même un frère, une sœur, deux autres sœurs. Nancy vient d'une famille de 12 enfants, 3 sont décédés maintenant. Et c'était quelque chose qui me rappelait combien le temps passe vite. Ce qui me semblait être des souvenirs d'il y a quelques jours, en fait c'était des souvenirs d'il y a 10, 20, 30 ans, 40 ans. Et ces deux idées de la beauté qui est une illustration de ce qui nous attend dans la vie avec Dieu, ça m'a fait penser à ce passage de 2 Corinthiens 4. Une autre chose qui nous rappelle combien le temps passe vite, c'était hier au mariage de Nathan, qu'on a connu comme un petit garçon de 3-4 ans, de voir que maintenant c'est un homme qu'il fonde une famille, et de voir aussi tous les bébés qu'il y avait, de personnes qu'on a connues il y a 20, 15 ans, 10 ans, de voir que le cycle de la vie continue et ça va très très vite. Et ça peut soit nous inspirer de la nostalgie, de dire « tout fout le camp, c'est pas drôle », soit nous déprimer au possible, soit nous encourager de façon splendide et merveilleuse. Je vais lire 2 Corinthiens 4 en entier, mais on va commenter essentiellement les derniers versets. Mais ça nous donne un peu le contexte de la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dont la pensée, dont l'inspiration n'a pas vieilli un poil. Ce qu'il nous dit est toujours aussi pertinent. Et à l'époque, il était en butte à des critiques, il était en butte à des... Il écrivait à l'église de Corinthe, où il y avait pas mal de problèmes. Si vous pensez que vous devez trouver l'église parfaite, et qu'au premier siècle les églises étaient parfaites, vous allez être surpris de voir qu'en fait il y avait plein de problèmes dans l'église de Corinthe. Et il y a des problèmes dans l'église aujourd'hui, mais en même temps, aux yeux de Dieu, l'église est son épouse, sans rides, sans taches. Quand vous pensez à l'église, souriez. Ne pensez pas à tous les problèmes qu'il peut y avoir entre les personnes. Ça, c'est le péché de la nature humaine. Mais pour Dieu, l'église est une merveilleuse chose. L'église, c'est là qu'il demeure, au milieu de nous. Il a de la joie quand il considère l'église. Et souvent, nous-mêmes, les chrétiens, on est les premiers à dire « L'église ceci, l'église cela, ils font trop ça, ils ne le font pas assez, ils croient ça, mais ce n'est pas vraiment biblique, mais si, ça c'est biblique, donc ça dépend comment on interprète, etc. » Élevons-nous un peu vers le Seigneur. Élevons-nous vers Lui. Demandons-Lui de nous diriger. Et une chose qui est regrettable, c'est quand dans l'Église, on perd courage. En anglais, on dit qu'on perd son cœur ou qu'on devient très négatif et on abandonne. On ne cherche plus à faire avancer les choses. C'est aussi quelque chose que j'ai pu constater en revoyant des amis, même de la famille, depuis très longtemps, de voir qu'en fait ces personnes se sont éloignées de la parole de Dieu, se sont éloignées de Jésus parce que les circonstances de la vie ont été difficiles ou qu'ils ont à faire face à des choses terribles. Et mon propos, ce n'est pas de critiquer ces personnes, mais c'est de nous inviter à prier pour ces personnes qui s'éloignent de Dieu. Ces personnes qui... confrontés à des difficultés, ne s'y retrouvent plus. Et encore une fois, on va voir que c'est dans la parole de Dieu, révélée par son Saint-Esprit à nos esprits, que nous trouvons le réconfort. Paul, dans 2 Corinthiens, semble des fois s'enorgueillir de son ministère, de ses capacités, et de son héritage, de tout ce qu'il a pu faire. Et en fait, ce n'était pas par orgueil ou par une gloire vaine, c'était pour défendre son message. Une technique courante, c'est d'attaquer le messager pour détruire le message. Et c'est pour ça qu'il est important que nous, en tant que messagers, nous ayons des vies au-dessus de tout soupçon, que nous puissions parler de l'Évangile comme de quelque chose de réel qui nous a transformés. Voilà, il est déjà 11h15, on va lire le texte. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu, nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Et puis ces trois derniers versets, j'ai toujours beaucoup aimé. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Il répète ce qu'il a dit au début du chapitre. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. On a, à l'occasion déjà, en étudiant le livre de 2 Corinthiens, parlé de ce passage. Mais c'est vraiment quelque chose, un passage qui me réjouit parce qu'il nous donne une saine perspective sur les choses. Nous vivons dans un monde où les apparences sont souvent considérées comme plus importantes que les réalités. Il remet ça en ordre. Il explique que c'est grâce à cette perspective qu'il ne perd pas courage. La vie sur terre, parce que nous sommes nés de nos ancêtres qui ont permis au péché d'entrer dans la race humaine, la vie sur terre, qu'on soit chrétien ou pas, est marquée par des souffrances, des joies, mais aussi, Job disait, l'homme naît pour souffrir. Jésus disait, vous aurez des tribulations. Nous devons entrer dans le royaume des cieux par beaucoup de tribulations. Les tribulations, c'est des épreuves, c'est des difficultés de la vie. Tous ceux qui veulent vivre en accord pieusement avec Jésus-Christ seront persécutés. Jacques nous dit, considérez vos épreuves non pas comme des choses qui vous détruisent, mais comme des sources de force en les remettant à Dieu. Paul, on vient de le lire, nous disait « Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, non abandonnés, abattus, non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. » Ce n'est pas facile, la vie sur terre. Il y a beaucoup de joie. Mais ce qui compte, c'est de voir l'index, que toutes ces choses, c'est l'index de Dieu qui nous montre qu'il y a quelque chose après qui est merveilleux. Quelque chose qui doit nous donner la force d'endurer ces épreuves et de ne pas nous laisser abattre, de ne pas nous laisser décourager par des circonstances difficiles. Il avait la conviction d'avoir reçu une mission divine pour annoncer la parole de Dieu, pour annoncer l'évangile de Dieu. Il a reçu une tâche, un ministère, c'était basé sur la grâce de Dieu, sur la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous méritons, mais si nous connaissons Jésus-Christ, nous avons ce ministère de partager l'évangile avec ceux qui nous entourent. Et nous ne devons pas perdre courage parce que c'était une grâce que Dieu nous a faite de nous donner cette connaissance d'un message dont le monde entier a tellement besoin. Mais surtout, il nous a donné de connaître, comme Pierre Ménégoli l'avait rappelé, cette personne merveilleuse qui est Jésus-Christ. Et Paul souffrait pour Jésus-Christ. Nous pouvons aussi avoir des circonstances difficiles en raison de notre amour pour Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que on peut souffrir pour nos propres bêtises, pour nos propres péchés. Mais lorsqu'on souffre parce qu'on annonce l'Évangile, parce qu'on est persécuté, que ce soit physiquement ou même mentalement, là, on doit se réjouir de ce qu'on fait quelque chose qui plaît à Dieu. Il avait la perspective d'annoncer la résurrection triomphale de Jésus-Christ. C'est le message de Pâques. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. La mort n'a plus de pouvoir. Le pouvoir du péché a été anéanti à la croix. Il nous dit, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, nous fera paraître avec vous en sa présence. Il avait à cœur d'assurer le bien-être spirituel des gens qui l'entouraient et la gloire de Dieu. Est-ce que c'est mon souci? Est-ce que mon souci, lorsque je pense à vous, c'est de prier pour vous, de vous remettre à l'esprit pour que vous grandissiez en lui, pour que vous connaissiez mieux Jésus, que vous le fassiez connaître, que votre vie soit vraiment transformée par lui? Ou est-ce que j'ai des idées critiques? Ils sont arrivés encore en retard, 5 minutes. Ou est-ce que je me réjouis de ce que vous connaissez le même Sauveur que moi, le seul Sauveur, le seul nom parmi tous les noms donnés sur la terre par celui par lequel nous devons être sauvés? Il veut faire abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est une bénédiction d'entendre Fedosi dire que parce qu'on a bêtement continué à persévérer à offrir des Bibles, on a pu la toucher. Si ce n'était que pour elle, tout notre travail n'aurait pas été en vain. Et vous aussi, nous aussi, nous sommes appelés à persévérer. Et la persévérance, c'est souvent le mot dans le Nouveau Testament, c'est le mot qui veut dire se tenir dessous quelque chose, pas être écrasé par cette chose. C'est être soutenir. Tenir dessous quelque chose. Et c'est important de voir que là, dans les 3 derniers versets, Paul nous donne un peu des conseils pour la persévérance. Il nous donne des repères. J'aime bien, parce que je l'ai évoqué, le temps passe, notre force physique diminue. Dieu merci lorsqu'il nous permet de rester en relative bonne santé, de pouvoir nous déplacer, de pouvoir parler, de pouvoir être autonome. Mais même lorsque ces choses sont prises, qu'on perd cette autonomie, cette liberté, rien ne nous empêche d'être forts pour Dieu. Et on a tous en mémoire les récits de ces personnes qui, handicapés, se retrouver sur un lit d'hôpital ou un lit dans une chaise roulante et qui continuent à avoir un ministère puissant par la prière. Notre être extérieur se détruit. C'est pas très gai. On aimerait, surtout dans notre société qui donne tant d'importance à la jeunesse, à la force, à la beauté, on aimerait être toujours jeune, beau, fort et gentil. Non, même pas ça. On veut rester en forme. Et je sais que je connecte mieux avec ceux qui ont déjà un âge certain ou un certain âge qu'avec les plus jeunes. Quand on est jeune, on a l'impression qu'on a toute la vie devant soi. Et statistiquement, c'est vrai. Mais malheureusement, c'est pas garanti. On peut être victime d'un accident quand on a 12 ans, aussi bien que quand on en a 70. Donc, savoir que il faut... Un des premiers secrets, c'est même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Quelqu'un a appelé ça une splendide compensation. C'est vrai que dans notre société de Botox et de chirurgie esthétique, on a tendance à privilégier l'aspect physique, l'homme extérieur. La vieillesse, le vieillissement, ça fait partie de la malédiction du péché. Dans le livre de l'Ecclésiaste, Salomon a parlé en termes très poétiques de la vieillesse. C'est dans Ecclésiaste 12. C'est pas la peine de s'y tourner, mais vous vous souvenez peut-être, si vous avez déjà lu ce passage, qu'il y a des descriptions poétiques des dents qui commencent à manquer, des bras qui commencent à devenir faibles. Et sans s'y tourner, on sait que c'est une réalité incontournable. L'hygiène de vie, une meilleure politique de santé publique font qu'on peut arriver à des âges plus avancés qu'il y a 50 ans ou 100 ans, en bonne forme relative, mais on ne peut pas tromper ce vieillissement. Par contre, notre homme intérieur, il se renouvelle de jour en jour. Et un des premiers secrets de la persévérance avec ce verset 16, c'est qu'il faut accorder plus de valeur à la force spirituelle qu'à la force physique. Lorsqu'il dit que notre homme extérieur se détruit, c'est vraiment très fort comme mot en grec, ça veut dire se délabrer, se corrompre. En français, il y a ce mot « se déglinguer ». Ça tombe en morceaux. Mais, en même temps, si nous connaissons le Seigneur, notre homme intérieur, notre âme, notre esprit, qui se nourrit de la parole de Dieu, qui vit au contact d'autres frères et sœurs et qui aussi fait un témoignage auprès de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, c'est comme un renouveau spirituel. Il nous disait dans Romains 12, 2, le même Paul, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il nous dit que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est une œuvre quotidienne. Si nous marchons avec le Seigneur, l'Esprit Saint nous renouvelle de jour en jour. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut remercier le Seigneur de ce que notre vie est quotidienne. Corinne et James, remerciez Dieu que votre vie est quotidienne. Aujourd'hui, c'est un jour, demain, c'est un autre jour. Et mardi, vous êtes dans l'avion et vous êtes tranquille. Un jour à la fois. La quotidienneté de la vie. Quand on regarde en arrière, on peut voir comment le Seigneur nous a menés, comment il nous a fait passer par des épreuves, des joies, des rencontres, des personnes, et toutes ces choses-là. Mais nous sommes appelés à vivre un jour à la fois. Si on nous disait, comme certains veulent nous faire croire, qu'on pouvait nous dire ce que notre vie va être dans les 20 prochaines années qui viennent, il n'est pas sûr qu'on serait très heureux de passer au lendemain. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais on connaît celui qui connaît et qui dirige l'avenir. Donc, accorder plus de valeur à la force spirituelle qu'à la force physique. Ce renouvellement s'est entretenu par ce processus de souffrance. On a tendance, et moi le premier, je dois le confesser, et peut-être que c'est pire chez moi que chez vous, on a tendance à penser que les épreuves, c'est pas normal. Et que si la vie était bien faite, tous ces problèmes, toutes ces épreuves, ces difficultés financières, physiques, la perte d'êtres chers, toutes ces choses-là ne devraient pas arriver. Et pourtant, Dieu nous permet de vivre ces choses parce qu'il veut nous renouveler. Pierre disait, dans 1 Pierre 4:1, « Puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Il disait dans verset 13 du même chapitre 4 de 1 Pierre, « Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ afin de vous réjouir aussi avec allégresse. » Allégresse, la 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 la, allégresse. C'est quand la dernière fois que vous avez dansé avec une indicible allégresse? Je le fais avec mes petits-enfants, avec Daphné, parce que eux, ils ont une allégresse naturelle. Il faut, lors de la révélation de sa gloire, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, car vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il y a aussi dans 2 Corinthiens 3:18, « Nous tous qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Nous sommes invités à remettre nos difficultés, nos afflictions, nos tribulations, toutes nos souffrances. Nous sommes invités à les remettre à Jésus-Christ, à nous soumettre à sa parole, à recevoir cet esprit de foi pour devenir mûr et non pas amer. C'est toujours beau de rencontrer un chrétien âgé dans le Seigneur, qui n'a pas l'amertume des gens du monde qui subissent les mêmes transformations de vieillissement, etc. Ça, c'est la première chose pour persévérer avec le Seigneur. Verset 17, « Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Nous devons, deuxièmement, accorder plus de valeur à l'avenir qu'au présent. Rappelez-vous, les bonnes choses sont l'index de Dieu qui nous parle de notre avenir, des choses merveilleuses, des choses indicibles, des choses que Paul disait qu'il n'était même pas autorisé à les partager. Si vous avez cette aspiration vers le bonheur, vers un monde sans problème, vers des joies, vers la beauté qui est reflétée dans la nature à certains endroits et dans certaines conditions, c'est parce que Dieu a mis en vous ce désir de l'éternité, d'une éternité avec lui. Alors je sais qu'on est quotidien, on en parlait, donc souvent on s'arrête à ce qu'on voit devant nos yeux. Mais il dit... Un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. L'avenir, pour le chrétien, il a plus de valeur que le présent. Il y a des contrastes. Il y a l'affliction opposée à la gloire. L'affliction, les épreuves terribles de l'existence humaine. Et la gloire qui appartient à Dieu, que nous allons être invités à partager, non pas parce que nous sommes glorieux, mais nous baignerons dans sa gloire. La gloire, c'est ce qui est solide, ce qui ne dépend pas des circonstances, ce qui est riche, ce qui est permanent en Dieu. Ce contexte, cette opposition, ce contraste, c'est l'affliction et la gloire. Et puis c'est aussi le fait qu'il y a une légère affliction et il y a un poids de gloire. La gloire, c'est lourd, c'est solide, ça va briller pour l'éternité. Et nos épreuves, elles ne sont que des légères afflictions. C'est surprenant. Et puis il y a un dernier contraste, c'est que sur terre, au présent, les choses travaillent contre nous. On a un mauvais diagnostic chez le médecin et on perd courage. On perd son travail, on perd un être cher. Tout ça, ça travaille contre nous. Dans le futur, ces choses vont travailler pour nous. Ça va produire pour nous un poids éternel de gloire. Et c'est même au-delà de toute mesure. Vous pensez pouvoir mesurer quelque chose ? Vous pouvez jeter votre mètre à mesurer, votre rayon laser, ça va être inimaginablement beau et grand et glorieux. Il y a un auteur qui dit, un auteur anglais, Alan Redpath, qui disait que Paul décrivait la bataille de la vie chrétienne comme triviale, c'est pas grave, temporaire, ça va pas durer, et comme transformante. C'est trivial, temporaire, mais transformant. On connaît l'apôtre Paul, on a vu dans ce chapitre 4 certaines choses. On sait aussi que quand il parlait d'épreuves, il savait de quoi il parlait. Il y avait un magasin de jouets qui a fait faillite qui disait « Toys are us ». Les jouets, c'est nous. Si vous cherchez quelque chose, maintenant il y a Amazon qui a fait disparaître cette chaîne de magasins. Mais Paul, il pouvait dire « Afflictions are me ». Les afflictions, je connais. Je ne crois pas, en fait, qu'il y ait, à part le Christ, qui a souffert la séparation d'avec le Père, qu'il avait toujours été... avec qui il avait toujours été en communion la plus intime possible, il n'y a pas de, je crois, d'homme qui ait souffert plus pour Christ que l'apôtre Paul. Il nous dit, et là aussi, ce n'est pas pour se vanter, mais il nous dit, j'ai connu des travaux pénibles, c'est 2 Corinthiens 11, 23, j'ai connu les travaux pénibles, en se comparant aux autres qui se disent apôtres, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements. J'ai souvent été en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des juifs les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves. En danger de la part des brigands. En danger de la part de mes compatriotes, c'est-à-dire les juifs. En danger de la part des non-juifs, les païens, en danger dans les villes, en danger dans la nature, dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les faux frères. J'ai connu le travail, j'ai connu la peine, j'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, les insomnies, vous connaissez peut-être, lui aussi a connu l'insomnie, à la faim, à la soif. À de nombreux jeunes, il a été exposé au froid, à la pauvreté absolue, au dénuement. Et puis, ce qui le troublait le plus dans sa vie d'implanteur d'église, c'était qu'il était assailli chaque jour par le souci qu'il avait de toutes les églises. Il disait que si quelqu'un est faible, il se sent faible. Si quelqu'un brûle, quelqu'un tombe, se détourne du Seigneur, lui aussi il en souffre, il brûle. Il connaissait les épreuves. Et pourtant c'est le même auteur qui nous parle de légère affliction. Et ça n'est possible que par contraste. Encore une fois, le doigt pointe vers quelque chose de tellement merveilleux que c'est fait pâlir toutes les difficultés de la vie sur terre. Et lui, il les avait connues. Vous pouvez imaginer une souffrance. Paul l'a connue de l'intérieur. Il en a fait l'expérience personnelle. Est-ce que 35 tonnes de bagages, c'est léger? Je suis toujours émerveillé, un peu inquiet, lorsque je vois... à l'aéroport, Il y a déjà le stress d'arriver à l'aéroport prêt, avec tous les bagages prêts. On a fait le vol en Boeing 777-200 qui peut comporter 316 passagers. J'avais du mal à soulever les quatre valises qui constituaient le bagage pour Nancy et moi. Et en fait, en moyenne, il y a 35 tonnes de bagages qui sont chargés dans cet avion. Cet avion, il est plein de fuel. Il est construit en métaux légers, en plastique, etc. Mais il pèse au départ, au décollage, il y a 350 tonnes qui doivent s'élever dans les airs, décoller du tarmac, partir et voler pendant 10 heures pour arriver à Paris. Et nous, on est là en rouspète parce que on n'a pas le film ne marche pas bien ou le Wi-Fi est en panne. Et on est là à voler à 10 000 mètres d'altitude. C'est un miracle moderne. Et ces 35 tonnes de bagages, ces 350 tonnes de poids à faire décoller, c'est léger. Sinon, ça ne serait pas possible. C'est léger par rapport à quoi ? C'est léger par rapport à la force de sustentation qui est développée par l'aile et la vitesse de l'avion dans l'air. Et ces choses qui nous paraissent défier le bon sens, ça fonctionne. C'est un léger poids face à la puissance des moteurs Rolls-Royce alimentés par les tonnes de fuel qui vont nous permettre de faire un vol en regardant des vidéos, en dormant, en rouspétant parce qu'on n'a pas le poulet qu'on aurait aimé, mais comme on est à la fin de l'avion, on reçoit les nouilles avec le thon. C'est ridicule. Et Paul, il nous dit, mais attendez, regardez, pas mon doigt, regardez là-haut. On doit avoir la bonne perspective. Le même Paul nous dit que j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous, Romains 8, 18. Il nous dit que c'est un poids, et sans doute il a à l'esprit le fait que le mot gloire, en hébreu, c'est le mot kabod. Ikabod, c'était lorsque la gloire avait quitté le peuple d'Israël. C'est le fait que ça veut dire aussi poids. C'est quelque chose qui est lourd, plus lourd qu'un A377, un avion chargé à plein. Il y a un contraste. C'est un moment de légère affliction qui produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel. Et ce n'est qu'un moment. Des fois, c'est vrai que les moments ont l'impression de durer très longtemps. Est-ce qu'une minute sous la roulette du dentiste dure plus longtemps qu'une minute en train de manger un bon gâteau? C'est exactement le même temps, 60 secondes. Mais il y a quelque chose qui nous paraît long et quelque chose qui objectivement n'est pas long. Il dit qu'il n'y a pas de commune mesure entre ce qu'on peut vivre de difficile ici-bas et ce qui nous attend. C'est léger, encore une fois, parce que, comparé à la souffrance de certains, nos souffrances, des fois, c'est rien à côté de ce que certains connaissent. C'est léger comparé à ce que nous méritons. Nous ne méritons rien de bien. C'est léger comparé à ce que Jésus a souffert pour nous. C'est léger comparé aux bénédictions que Dieu nous donne quand même. Et c'est léger comparé à la gloire à laquelle ces choses nous mènent. Verset 18, pour terminer, « Ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. » Troisième façon de de susciter la persévérance, d'arriver à durer dans le temps, c'est donc d'accorder plus de valeur aux réalités éternelles qu'aux réalités temporelles. Il nous dit de regarder. Regarder, ce n'est pas jeter un coup d'œil. Au contraire, c'est contempler, c'est prendre le temps. C'est un peu comme si on essaye de régler un télescope sur un astre lointain. D'abord, il faut l'orienter dans le bon sens. Et puis après, on peut mettre au point en agissant sur un bouton pour régler la distance focale, pour qu'il n'y ait plus de flou de l'image. Et ce mot, ça suggère un examen intense. Il faut scruter constamment. C'est une contemplation soutenue et régulière. Est-ce que nous prenons le temps de regarder les choses éternelles à la lumière de la parole de Dieu, par l'inspiration de l'Esprit Saint? Est-ce qu'on aime bien méditer sur ces choses? On vit dans une société qui est devenue folle, avec les réseaux sociaux, avec les nouvelles en continu. Quelle est la dernière révélation sur ce faux policier de Macron? Est-ce que... Et ça fait du bien aussi de prendre le temps. On a juste regardé quelques matchs de la Coupe du Monde sur l'île, mais on n'avait plus de nouvelles de ce qui se passait. Et on peut se tourner vers Dieu plus facilement. On est plongé dans la beauté de sa nature et on se dit: quel Dieu merveilleux, quel doigt il utilise pour nous montrer ce qui nous attend de merveilleux, de solide, d'éternel. Matthieu nous cite les paroles de Jésus qui disait: ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Paul disait dans 1 Corinthiens 7, 31, la figure de ce monde passe. Les choses que nous pouvons voir, elles ne vont pas durer. Nous vivons vraiment dans un monde qui a perdu ses repères, qui ne prend plus le temps de penser à Dieu. On a lu que dans 2 Corinthiens 4, que l'Évangile est encore voilé pour beaucoup de nos contemporains. Nous qui avons reçu, qui nous sommes tournés vers Jésus, l'Évangile est tellement, il semble logique, il semble aller de soi. Et pourtant, lorsqu'on parle à nos familles qui ne sont pas encore sauvées, à nos amis, nos collègues, l'Évangile est voilé. Il est pour ceux qui périssent, pour ceux qui ne sont pas sauvés. Pour les incrédules, ceux qui ne croient pas, dont le Dieu de ce monde, Satan, a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller l'éclat que projette l'Évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. La façon dont les gens peuvent se tourner vers Dieu, c'était aussi de... Verset 14 du précédent chapitre disait: l'intelligence de ces gens est obscurcie. C'est lorsque quelqu'un se tourne vers le Seigneur que le voile est enlevé. Souvent, les gens veulent comprendre l'Évangile avant de se tourner vers Dieu. Vous pouvez les inviter à se tourner vers Dieu, vers Jésus, vers l'Évangile, avant même qu'ils aient compris tout ce que ça recouvre. Mais, encore une fois, nous serons d'autant plus utilisés par l'Esprit Saint pour convaincre les gens de la réalité de l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas des fake news, des fausses nouvelles. Aujourd'hui, on vit dans ce monde où on ne sait jamais s'il y a vraiment un réchauffement climatique ou si c'est de l'histoire ou pas. Même si on est convaincu d'un truc, on voit que d'autres prétendent être convaincus des choses opposées. Il y a cette confusion entre les apparences. est la réalité des choses. Mais si nous faisons ce que Paul nous invite à faire, si nous prenons à cœur ces derniers trois versets, et ça pour moi était toujours une source de grand encouragement. L'an prochain, je vais avoir 70 ans. Et pour moi, quand j'en avais 20, avoir 30 ans, c'était déjà être très vieux. Donc, ces versets, de savoir que notre homme extérieur se détruit de jour en jour, mais notre homme intérieur, lui, se fortifie, c'est une merveilleuse consolation. Et ce n'est pas une petite consolation. J'aime bien dire que j'avais jamais tellement pensé à ce que ça voulait dire que d'être grand-parent. J'avais toujours entendu des grands-parents qui radotaient un peu en disant « Oh, c'est merveilleux d'avoir des petits-enfants. On les a quand ils sont gentils, après on les repasse aux parents. » Et je pensais que c'était un peu une façon de dire « Oui, et ils vous disent tous que c'est merveilleux. » Et je me disais « Oui, ils disent ça parce qu'ils sont déprimés, ils vieillissent. Donc ils trouvent un petit réconfort. » C'est non, non. Être grand-parent, c'est quelque chose de merveilleux. On redécouvre l'innocence, on redécouvre l'émerveillement de petits êtres devant la création de Dieu, devant les goûts des aliments, les goûts des situations. C'est quelque chose qui m'a surpris. J'ai été surpris par la joie. Et un jour, nous tous, nous allons être surpris. Surpris par la joie. Et on va se dire, mais pourquoi on était si déprimé? Pourquoi on n'annonçait pas la bonne nouvelle de l'Évangile, plein de joie et de conviction qu'il y a quelque chose, qu'il y a un doigt, le doigt de Dieu, qui nous montre quelque chose d'infiniment merveilleux. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la vie de l'apôtre Paul, si bien rapportée dans le Nouveau Testament. Merci parce que tu connais le futur. Tu veux nous apprendre à persévérer dans notre foi. Tu veux que nous apportions attachions davantage de valeur à la force spirituelle qu'à la force physique, qu'on accorde plus de valeur à l'avenir qu'au présent et qu'on accorde plus de valeur aux réalités éternelles qu'aux réalités temporelles. Seigneur, nous savons que notre vie dépend de notre perspective. Aide-nous à adopter cette perspective selon toi. Cette perspective que l'apôtre Paul avait saisie et dont il se faisait l'ambassadeur. Aide-nous à croire ces choses au plus profond de nous-mêmes. Merci pour le merveilleux réconfort que ces paroles contiennent, Seigneur. Que si nous éprouvons le vieillissement, si nous éprouvons des pertes, la perte d'être cher, Seigneur, tout le monde dans lequel nous vivons, c'est ton doigt qui nous dit il y a quelque chose d'éternel qui vous attend, qui est infiniment plus fort, infiniment plus beau que tout ce que nous pouvons envisager et rêver à, Seigneur. Sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Aide-nous à être tes ambassadeurs pleins de zèle, de conviction, de joie. Et Seigneur, nous te remettons les mois, les années à venir pour chacun d'entre nous, Seigneur. Nous ne savons pas ce que cela recouvre. Nous avons le privilège de connaître celui qui connaît le futur et qui nous garantit que ce sera merveilleux. Au-delà de tous nos espoirs, de toutes nos espérances, sois béni pour ta parole, Seigneur. Sois glorifié. Et si pendant que nous prions, certains d'entre vous sont touchés par la réalité du message de l'Évangile et que peut-être vous n'avez pas encore accepté cette vérité, en n'acceptant pas encore Jésus-Christ, dont il est toujours question dans la Bible, je veux vous inviter à prier une prière en silence. Vous pouvez dire, oui Seigneur, je vis dans un monde d'illusions. J'attache de l'importance aux choses qui n'en méritent pas. Je reconnais que je suis un pécheur, que je cherche à faire ma volonté, non pas la tienne. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande de venir dans ma vie. Par ces versets, par ces paroles, tu peux frapper à la porte de mon cœur. Seigneur, je veux l'ouvrir pour que tu viennes demeurer en moi. Je te demande de m'aider à me détourner de mes péchés, de mon péché, pour me tourner vers toi. Seigneur, aide-moi à te voir avec le cœur, même si je ne te vois pas avec les yeux, Seigneur. Sois glorifié dans ma vie, par ma vie. Utilise-moi, Seigneur. Sois béni. Si certains ont prié cette prière, pendant que nous sommes tous dans une attitude de recueillement, je vous demanderai simplement de lever la main pour que je puisse prier pour vous. Merci Seigneur pour ces personnes qui veulent que tu viennes vivre dans leur vie, Seigneur. Que tu prennes le contrôle de leurs décisions. Qu'ils puissent vraiment s'abandonner à toi en toute confiance. Seigneur, nous savons que c'est le cas pour tous, Seigneur. Aide-nous à grandir tous ensemble, Seigneur. À nous encourager par ces paroles de l'apôtre Paul. Savoir qu'il nous attend, il y a un poids éternel de gloire qui nous attend. Et que ces épreuves sont passagères, même si ça peut nous paraître long sur le moment. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié parmi nous. Prions toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen.